Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers ?
Un café, s'il vous plaît.
Ça marche.
Yves Saint-Laurent disait « Le plus beau maquillage d'une femme, c'est sa passion. » Mais les cosmétiques sont plus faciles à acheter. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Emara de la marque Belle Radiance, une femme passionnée qui va nous parler de cosmétiques. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Branchegan Touche-à-tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. N'hésite pas à t'abonner, commenter, noter et partager ce podcast pour m'aider à mieux être référencée. Je te remercie. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Emara, bienvenue dans ma pause café avec Tia.
Bonjour Tia.
Je suis vraiment, vraiment contente de te recevoir parce que ben, tu le sais, je suis une fan de ta marque et c'est vraiment un honneur de t'avoir aujourd'hui avec moi.
Eh bien, plaisir partagé. Moi aussi, je suis ravie. J'avoue que ce n'est pas tous les jours qu'on a des super belles égéries, j'ai envie de dire. On était très contentes, surtout que nos produits te plaisent. Et franchement, moi, ça me fait toujours plaisir de partager ma passion, de parler de ce que je fais. Donc voilà, je suis ravie.
Ben aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va parler de toi et de ta passion, mais on va commencer par une question toute simple, mais que je pose obligatoirement à mes invités. Tu es plutôt thé ou café ?
Café.
Ah, très bien. Alors, ça me va parce que moi aussi, je suis plutôt café, donc ce sera bien une pause café aujourd'hui. Alors, nous allons parler de ta marque, évidemment, Belle Radiance. Mais avant, j'aimerais que l'on apprenne à te connaître. Tu es d'origine martiniquaise. Aux Antilles, oui. Les femmes sont très coquettes. Est-ce que ta passion pour le maquillage est née là-bas ?
Ben, écoute, moi, je suis née en Martinique parce que ma mère est martiniquaise et que voilà, mon père avait décidé d'aller s'installer là-bas avec elle. Mais très tôt, on a quitté, donc j'ai quitté la Martinique, j'étais encore enfant, j'avais 4 ans, d'accord. Parce que mes parents étaient assez globe-trotters, donc ils avaient envie de voir le monde et ils ont décidé d'aller s'installer au Canada.
On entend le petit accent.
Exactement, donc je suis arrivée au Canada toute jeune, donc avec ma maman et mon papa qui est ch'ti, donc du nord de la France.
D'accord.
Et voilà, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas. Et j'avoue que avant de m'intéresser au maquillage, en fait, moi, quand j'ai fait mes études en école de commerce et tout, et puis au Canada, c'est vrai qu'on apprend à être très vite débrouillard et à devoir travailler en même temps qu'on fait ses études. Moi, c'était la mode, ma grande passion au départ.
D'accord.
Et j'étais passionnée de la vente, j'ai fait de la vente de vêtements, de chaussures, enfin, j'étais vraiment dans cet univers-là. Et c'est un peu par hasard que je me suis retrouvée chez L'Oréal au Canada. C'est en finissant mon école de commerce que les choses se sont passées, mais on m'a plutôt fortement suggéré d'aller passer un entretien là-bas juste parce que L'Oréal faisait des recrutements sur le campus.
D'accord.
Et franchement, ben, ça a été un 180 degrés, c'est-à-dire que je suis tombée red-dingue, amoureuse. Pas juste des cosmétiques, parce qu'évidemment, moi, j'étais une fervente utilisatrice aussi. Hein. Ma première marque de maquillage en bonne canadienne que je suis, c'était MAC.
Évidemment.
J'avais 16 ans et je me souviens encore des balbutiements de MAC dans les corners des grands magasins. Donc voilà, et cette passion, en fait, elle est vite devenue très forte pour le maquillage, même si j'ai travaillé sur le soin, sur le capillaire, et même sur du parfum. J'ai été très, très vite passionnée par le maquillage et c'est ce qui a été, je dirais, un fil conducteur après tout au long de ma carrière.
Et c'est pour ça qu'après, tu passes chez Sephora ?
Ben en fait, oui, j'ai fait mes armes en fait, chez L'Oréal au Canada et avec mon mari, on a décidé qui est aussi de nationalité française, on a décidé de venir s'installer à Paris. Lui avait une opportunité Donc, je l'ai suivie dans cette opportunité et j'ai été mise en contact et j'ai rencontré les gens de la marque Sephora très vite, qui était tout petit à l'époque, hein, en 2003-2004. Il y avait une vingtaine de personnes pour créer et toute la marque, les produits de la marque Sephora.
Ah oui, d'accord.
Oui, oui, c'était presque en mode, j'allais dire start-up, mais bon, il ne faut pas exagérer. Mais c'était assez petit. Et j'ai passé 6 ans sur la plateforme internationale qui crée et met en marché tous les produits de la marque Sephora. Donc, une très, très belle aventure avant d'aller sur une marque plus petite où là, j'avais envie de vraiment vivre une expérience beaucoup plus petite entreprise où on fait tout, on met les mains dans le cambouis. Et en plus, avec mes origines et tout ce que m'avait transmis autant ma maman, mais pas que ma maman, hein, mes tantes, mes cousines, ma sœur et autres, une envie de créer et de faire des choses pour tous les tons de peau. Et c'est comme ça que je suis montée à bord du bateau Black Up, qui n'était même pas un bateau, qui était un radeau à l'époque. Et qui était en grande difficulté en 2010-2011. Et donc, j'ai passé 4 ans à reconstruire cette marque à bout de bras. Et c'est là où j'ai vraiment, découvert cet univers exceptionnel et très pointu qui est de développer des produits pour les peaux métissées, les peaux noires. Et je suis vraiment plongée dans un autre univers.
Quand on travaille pour L'Oréal, Sephora, Black Up, qui sont quand même des noms dans l'industrie de la beauté, comment on arrive à trouver sa place ?
Ben, c'est des sociétés déjà qui sont toutes différentes. Et après, c'était à des époques différentes. Hein. Moi, j'ai commencé ma carrière en 99, donc voilà, ça fait un petit moment. L'Oréal, c'est encore plus vrai aujourd'hui, mais c'est gigantesque.
Ben oui,
c'est gigantesque. Moi, j'étais sur le Canada, donc on est un petit pays hein, par rapport à ce qui se passe, par exemple, en France, où on a à la fois l'international et le marché local. Moi, j'étais sur un pays un peu satellite, en plus des États-Unis. On était très collés au marché américain aussi. Je dirais que chez L'Oréal, à l'époque, faire sa place, c'était très difficile et surtout... c'était une très bonne école à l'époque parce que ça nous apprenait plein de choses par rapport au terrain, par rapport aux bases de l'analyse, de bien comprendre comment on peut faire avancer les choses avec beaucoup de budget et de manière structurée. Pour vraiment progresser, faire une carrière et avancer, j'avoue que c'était assez compliqué, c'est très politique. Chez Sephora, quand je suis arrivée, ben, ça a énormément changé en 6 ans, parce que comme je te disais, je suis arrivée, il y avait 20 personnes qui faisaient tous les produits de la marque Sephora de A à Z. Quand je suis partie, on était plutôt une équipe d'une centaine, et aujourd'hui, ça a encore grossi. Il y a tout le pôle américain aussi qui s'est construit avec Kendo aux États-Unis, donc ça a beaucoup évolué. C'était déjà plus petit, donc une manière plus, je dirais, en tout cas intéressante au sens où moi je l'entends, hein, d'avoir des projets de A à Z. Donc ça, j'ai connu ça chez Sephora, c'est-à-dire qu'il fallait concevoir, créer, gérer tout le développement du produit, travailler avec les labos jusqu'à la mise en marché du produit. Donc on faisait déjà toutes les étapes du développement et de la mise en marché. Et puis chez Black Up, ben là, je suis passée encore dans une plus petite taille de boîte. Hein. Il y avait à peine 10 personnes. C'est encore comme ça, voire peut-être moins encore aujourd'hui. Là, c'est vraiment... je dirais que ça a été mon baptême du feu de la toute petite entreprise et de la start-up. Et là, c'est complètement différent parce que je me retrouvais plutôt numéro 2 de la boîte. Donc, on était vraiment dans une autre dimension. Donc, c'est sûr que faire sa place dans l'industrie de la cosmétique, C'est très difficile, c'est pas évident. J'ai beaucoup de gens encore aujourd'hui qui m'envoient des CV ou qui me demandent. Mais en même temps, je pense que toutes les voies sont bonnes. On peut commencer dans une toute petite entreprise, comme on peut rentrer dans une grande boîte. Ce qui est important, c'est d'y aller et de poursuivre, parce que ça ne se fait pas en un an, ça ne se fait pas en deux ans, ça se fait sur beaucoup d'années. Il y a énormément de choses à apprendre sur ce marché et il faut se donner le temps.
Comme tu dis, il faut y aller, il faut oser. Est-ce que dans ton parcours, à des moments, tu t'es dit « ça, c'est peut-être trop gros pour moi » ou au contraire, plus c'était gros et plus tu te disais « je peux y aller, je peux y arriver ». Comment on garde un état d'esprit pour se dire « allez, il faut y aller » ?
Eh bien, j'aurais tendance à dire que c'est un peu comme quand on fait l'ascension d'une montagne. Il ne faut pas trop regarder le sommet.
C'est vrai.
Il ne faut pas trop se poser la question. Il faut prendre une marche à la fois. Et c'est quand on atteint un premier palier, qu'on regarde la vue et on se dit « waouh, c'est super beau, je ne pensais pas que ce serait aussi beau quand j'étais en bas. Ouais. » Et je ne suis même pas encore au sommet. Donc, je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut prendre les choses, parce que sinon, ça peut faire très, très peur. Je pense que, entre autres, quand je suis arrivée chez Black Up, je n'avais pas du tout conscience que je serais aussi mise à rude épreuve que je serais. Moi, je pensais que les laboratoires avec qui j'avais l'habitude de travailler et les fabricants de maquillage, ils connaissaient les peaux noires, qu'ils allaient m'aider à retravailler la marque, alors que pas du tout. Je pensais jamais que j'aurais une charge de travail aussi importante, que j'aurais autant de responsabilités. Enfin, tout ça, on le découvre au fil de l'eau, mais ce qu'il faut se dire, et je pense que c'est comme ça dans toute expérience dans la vie, c'est que ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, on va l'apprendre et demain, ben, on en saura plus et on sera meilleur. Donc, on est toujours, toujours, toujours en progression.
Ouais, je suis totalement d'accord. À quel moment l'idée de créer ta propre marque a effleuré ton esprit ? À quel moment tu t'es dit « vas-y, j'ai envie d'avoir ma marque » ?
Ouh là là ! Alors ça, c'est pareil, ça c'est assez drôle parce que les gens ont tendance à se dire bon, ben, que c'était un rêve depuis toujours et que je me suis dit « allez, je me lance ». C'est pas tout à fait comme ça que se sont passées les choses. Bizarrement, moi j'avais plutôt tendance à dire « ouh là là, non, moi je me lancerai pas là-dedans parce que c'est
vrai ».
Ah oui, carrément. Donc, je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit. En plus, je suis une professionnelle du métier. Je suis pas une maquilleuse. C'était pas tout à fait comme ça que se sont passées les choses. Quand j'ai quitté Black Up, j'ai décidé de monter une société, mais plus moi en tant qu'indépendante, en consulting, pour travailler pour différentes marques, pour les aider justement à ouvrir leur portefeuille de marques à tous les tons de peau. Donc j'ai créé beaucoup de gammes de fonds de teint pour des grandes marques. J'ai fait des workshops pour les aider à mieux comprendre les spécificités, les besoins, les difficultés de formulation qu'on peut retrouver. Donc, j'étais vraiment dans cette idée d'ouvrir la voie. J'étais conférencière aussi à ce moment-là, donc j'ai travaillé avec pas mal de gens et du coup, j'étais assez reconnue et je suis encore, je pense, dans l'industrie pour m'y connaître un petit peu en produits de maquillage et aussi pour toutes les peaux. Et un tout petit labo français avec qui j'avais eu pas mal de contacts dans le passé, mais avec qui j'avais jamais travaillé, est venu me voir en me disant « Mara, on a une formulatrice qui a commencé à travailler sur quelque chose d'assez innovant, mais on ne sait pas trop. On aimerait avoir ton feeling. » Et donc, je me suis installée avec la formulatrice et on a commencé à regarder une base de fond de teint qui était à base d'eau de concombre et qui était sans silicone. Et en fait, là, je te dis ça, je parle il y a quelques années déjà, 2015-2016.
D'accord.
Clean Beauty n'existait pas du tout. Et donc moi, j'étais juste trop excitée par cette option. Je trouvais que c'était génial. J'ai commencé à tester les différentes formules sur des copines pour voir un peu comment ça rendait. Je trouvais très excitant de travailler sans les fameux silicones parce que on en est gavé et
je connaissais aussi
C'est pervers. Ben oui, ben, c'est sûr que c'est un super produit à utiliser, un super ingrédient à utiliser pour avoir des top textures dans le maquillage. Mais en même temps, moi, je connaissais bien les effets pervers du silicone parce que à un moment donné ou un autre, oui, ça étouffe la peau ou encore ça empêche la peau d'être dans son cycle naturel parce qu'on la recouvre de cette couche. Donc, si on a une peau sèche, on va avoir une sensation d'hydratation, mais en fait, la peau, elle va produire encore moins de sébum, donc on va dessécher sa peau en utilisant du silicone. Et si on est le contraire, on est dans une peau grasse, ben, on a l'impression d'étouffement encore plus. Et j'avais souvent des clientes qui me disaient « Ah non, non, moi je ne mets pas de fond de teint parce qu'en milieu de la journée, j'ai le sébum qui perce à travers le maquillage. C'est horrible et c'est inconfortable. » Et bon, tout ça, je savais que c'était les effets pervers des silicones et des huiles minérales. Donc, moi, je me suis intéressée surtout à ce premier produit. Et en fait, j'avais commencé à monter une gamme de teintes larges en me disant « c'est super, on pourrait avoir un assortiment avec des teintes claires qui pourraient peut-être aller dans la pharmacie » parce qu'à l'époque, je me disais « il n'y a que la pharmacie qui peut vendre ce type de produit puisque c'est que 85% d'ingrédients naturels, c'est pas quelque chose qui est… » on n'est pas dans cette idée d'aller dans une certification bio, on est plus en train de chercher le respect de l'équilibre cutané que juste dire c'est naturel. Donc tout ça, je me disais, ben, il faut peut-être aller d'un côté plutôt dermo-cosmétique. Donc ma première idée, ça a été de dire, bon, ben, je vais essayer de commercialiser à l'export, hein, parce que je savais que dans plusieurs pays et plusieurs régions du monde, il y avait pas mal de demandes, mais il n'y avait pas assez d'offres. Et je me suis dit, l'idéal, c'est de pouvoir commercialiser ces fonds de teint à l'eau de concombre dans des pharmacies. Mais bon, je n'étais même pas encore dans une idée aboutie de créer une marque. Et en fait, ben, comme je disais tout à l'heure, c'est quand on commence à mettre un doigt dans l'engrenage, ben, finalement, il y a les bras, il y a tout qui part. Et en fait, de cette première démarche, eh ben là, c'est parti complètement dans tous les sens. Là, je me suis dit, ah, mais oui, mais c'est extraordinaire. Il y a quelque chose à faire, il faut y aller. Et voilà, et c'est comme ça que Belle Radiance, je dirais, est née, que maintenant, on a rebaptisé Biradiance pour l'internationaliser vraiment.
Ouais.
Parce que je ne pouvais pas internationaliser Belle Radiance en dépôt légal dans le monde. Et voilà, donc c'est comme ça que l'aventure a commencé.
Je trouve ça génial, concours de circonstances, mais qui finalement rejoignent ce que tu sais faire et met en lumière ce que tu sais faire. Comme, des fois, je me dis qu'il n'y a pas de hasard.
Ben, c'est ce que je me dis. Après, il y a des jours où je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais à quoi j'ai pensé? Parce qu'on a toujours ces belles histoires magnifiques et magiques des entrepreneurs. Mais qu'est-ce que c'est dur? Il y a plein de choses. On parlait tout à l'heure d'apprendre. Mon Dieu, moi, il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais fait une levée de fonds de ma vie. Je n'avais jamais été aussi loin dans des stress intenses de savoir est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais m'en sortir. Et encore aujourd'hui, j'ai des jours où je me dis, mais comment je vais faire pour y arriver? Il y a encore tellement de choses à faire.
Mais justement, je vais rebondir sur ce que tu disais sur la complexité de créer sa marque. Toi, en plus, tu n'as pas été à la facilité, tu as créé une marque clean. Quels ont été vraiment les obstacles, les trucs où tu t'es dit « mais c'est dingue, je ne vais jamais y arriver ». Est-ce que c'était les coûts, le choix du le laboratoire? Non, puisque tu nous as dit que finalement, c'est le laboratoire qui est venu à toi, donc tu as eu de la chance. Mais derrière, ouais. Comment tu as fait pour gérer tout ça?
Moi, c'est vrai que j'ai la chance d'être, j'ai envie de dire, sur toute la partie développer, créer des produits, c'est ce que je sais faire. Et particulièrement hein, sur le maquillage. Et après, j'ai cette expertise du maquillage du teint pour tous les tons de peau. Donc, c'est vrai que là-dessus, je suis assez choyée. Enfin, choyée, je ne sais pas si c'est le mot, mais ce n'est pas ce qui est le plus embêtant pour moi aujourd'hui dans l'aventure. Là où c'est super challenging, c'est que comment je pourrais imaginer ça? Imaginons que je suis à peine un petit radeau sur l'océan, hein, à peine un petit radeau, hein, je suis même pas un petit voilier, je suis un petit radeau. Mais sur cet océan, sur cette mer, ben, les vagues, elles sont super hautes. Et à côté de nous, ben, y a des paquebots qui passent.
Ouais.
Nous en mettre plein la gueule et la compétition, elle est hyper forte. Et c'est vrai que de vouloir aller dans moi, la clean, oui, ben, comme je disais tout à l'heure, je ne me serais jamais intéressée à lancer du maquillage sur le marché si je n'avais pas de l'innovation, quelque chose qui me stimulait plus que ce que j'ai fait dans ma carrière. C'était évident que pour moi, de pouvoir enlever les éléments de pétrochimie qui viennent perturber la peau, moi, c'est une évidence pour moi que c'est ça qui me stimule et qui me donne envie. Et on est même en train d'aller plus loin, on est en train d'aller sur le microbiome avec des probiotiques là dans nos prochains produits. Donc ça, c'est sûr que moi, c'est toute ma passion qui est là. Après, autour de ça, bah, créer une marque, c'est créer une société. Créer une société, ça veut dire bah, déjà, il faut avoir les moyens de le faire. Donc oui, il faut des fonds. Il faut en trouver parce que moi, j'ai mis un peu tout ce que j'avais comme économie là-dedans, mais après, c'est pas assez. Il faut être capable de faire tout avancer en même temps. C'est-à-dire que il faut se dire, ben voilà, il faut que j'arrive à vendre mon produit. Où est-ce que je vais le vendre? Quand on tape à la porte des retailers, des enseignes, ils nous disent, ah ben non, vous êtes trop petits, on n'a pas besoin de vous. Nous, on a ce qu'il faut ou on préfère d'autres. Il faut essayer de faire sa place au soleil. Instagram, aujourd'hui, c'est devenu un combat au quotidien. Ça demande aussi beaucoup d'investissement. Donc là encore, il faut de l'argent. Donc tout ça, c'est hyper dur. On a besoin d'aide. Moi, je pourrais pas faire toute seule. Donc à un moment donné, on commence à dire, bon ben, on prend quelqu'un en stage, mais ça dure que 6 mois. Après, on se dit, ben non, il faut peut-être avoir quelqu'un ou deux, et voilà. Et donc, on se retrouve finalement à avoir un ou deux employés, il faut les payer. Donc, tout ça, c'est des contraintes, je dirais, de l'entrepreneur en général, qui n'est pas juste dans l'industrie de la cosmétique et qui sont particulièrement importants, en tout cas, à prendre en considération.
Comme tu le disais, tu es face à des gros paquebots, L'Oréal, Sephora, pour ne citer qu'eux, puisque en plus, tu as travaillé avec eux. Comment tu arrives à t'imaginer arriver à ce niveau-là, ou est-ce que c'est même pas ton but d'arriver à ce niveau-là, juste de faire découvrir ta marque?
Moi, c'est clairement, je dirais, la vision, elle est là. Pour moi, la vision, c'est de créer une marque de maquillage que je dis « healthy makeup hein. ». J'aime beaucoup utiliser le mot « healthy » et le mot healthy skin, donc une peau saine. À mon avis, on est dans les pionniers aujourd'hui des marques. Il n'y en a presque pas en maquillage aujourd'hui qui travaillent déjà en clean, voire plus que clean, parce que moi, je pense que clean, ça va devenir la norme. Donc, c'est pas juste d'aller sur le clean, c'est d'aller sur l'équilibre cutané et une plus belle peau, concrètement. Et bien évidemment, ma vision, elle est internationale, elle est d'en faire une vraie marque référente, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe. Maintenant, cette vision, jusqu'où j'arriverai à la concrétiser, je ne sais pas, mais c'est comme tout à l'heure l'exemple de l'Everest. Le haut de mon Everest, il est là. Je le sais, il est là, mais j'y pense pas tous les jours. Aujourd'hui, voilà ce que j'ai à faire, je fais de mon mieux et on verra pour la prochaine marche à gravir. Mais si on regarde trop le haut de la montagne, on a le vertige et puis on bouge plus.
J'adore ta façon de voir les choses. C'est très poétique, mais en même temps, c'est vrai. C'est déjoliment, mais c'est vrai. Alors, le fond de teint, moi, j'ai testé ton fond de teint. D'ailleurs, c'est celui que je mets en ce moment, donc il n'y a pas de secret. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment sa formule qui me fait penser à du minimalisme. Donc, juste le strict nécessaire dont a besoin ma peau pour la sublimer et pas du tout la cacher. Et alors, moi, personnellement, j'adore cet effet. J'aime vraiment cet effet peau nue où on a presque l'impression que je ne suis pas maquillée. Mais en même temps, je me dis que tu vas à l'encontre de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux où les filles sont hyper maquillées avec du contouring à tout va, on voit l'épaisseur du fond de teint. Là, on n'est pas du tout là. Et je me dis, c'est quand même un pari risqué.
Ben oui, et je te dirais que ça l'était encore plus quand j'ai mis les mains dans cette texture et que j'ai commencé à la travailler en 2016, 2015-2016, on était à des années-lumière de penser qu'on aurait envie d'aller vers des textures plus légères. Donc peut-être qu'un jour on dira que je suis visionnaire, j'en sais rien, mais moi c'est sûr que ça m'a vraiment plu. Et il se trouve quand même qu'on avance de plus en plus dans une tendance où le drag queen make-up, même s'il est encore là, va aussi un petit peu laisser sa place à ma peau mais en mieux. Et là, je dirais qu'on le sent encore plus avec le confinement, avec le Covid, on a pris encore plus conscience de cette importance de... d'avoir une peau dont on s'occupe bien. On a pris, je dirais, plus le temps pendant le confinement, peut-être, de prendre soin de sa peau. Et donc, cette envie de la masquer, elle est peut-être de moins grande importance. Et de toute façon, moi, dans ma philosophie, à un moment donné... Ce qu'on essaye de faire, et là je parle comme une vieille, mais c'est quand même un peu ce qu'on essaye de faire depuis des années, depuis toujours, on essaye d'avoir le plus possible un maquillage, entre guillemets, qui ne se voit pas, mais qui triche. Donc ce qu'on veut, c'est tricher. Donc à partir du moment où on essaye d'unifier, mais qu'en dessous on a une jolie peau, on n'a plus besoin d'aller à des niveaux d'épaisseur et de camouflage. Donc, pour moi, c'est ça l'objectif ultime. L'objectif ultime, j'aimerais, et d'ailleurs, on va même rentrer en test clinique sur nos produits et sur les nouveautés, j'aimerais pouvoir proposer vraiment une différence dans le temps. C'est-à-dire que le fait d'utiliser des produits de maquillage qui sont peut-être plus légers, oui, mais qui sont bons pour la peau, peuvent permettre aussi d'améliorer la peau en dessous. Ce qui est un cercle vertueux, dans le fond. Parce que, bien évidemment, quand on commence à se rendre compte que ben, on n'a pas besoin d'avoir de lourdeur sur le visage, que c'est confortable, que l'effet, le rendu sur la peau est beau et que la peau en dessous est plus belle, ben, finalement, c'est, je pense, un look qui va être de plus en plus recherché. Et de toute façon, déjà, je pense que moi, c'est une approche globale chez moi. Je fais attention à ce que je mange, je fais du sport, je fais attention à ce que je mets sur ma peau, à comment j'en prends soin. Il n'y a pas de raison que le maquillage ne suive pas cette logique.
C'est un état d'esprit.
Oui.
Je ne sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses. Pour moi, le maquillage, alors bien sûr, c'est quelque chose avec lequel on peut jouer, c'est quelque chose que l'on peut considérer comme futile, mais moi, j'ai l'intime conviction que le maquillage a aussi un effet sur la société. Et tu vois, par exemple, si je prends ta marque, j'aime l'idée de me dire que, par exemple, les jeunes filles qui vont commencer à se maquiller, avec des produits comme les tiens, puissent se dire que finalement, le moins ben, va leur permettre de révéler leur potentiel et ne pas chercher à devoir se cacher comme on le voit justement aujourd'hui. Et je me dis que finalement, de manière peut-être inconsciente, les aider à s'accepter comme elles sont. Et moi, c'est vraiment ce que je pense du maquillage. C'est-à-dire qu'on peut très bien se maquiller comme on peut ne pas se maquiller. Mais quand on se maquille, si finalement on arrive aussi à dire « je me maquille, mais j'accepte totalement celle que je suis », je me dis qu'on a gagné quand même un combat qui est énorme.
Oui, mais tellement. Et moi, c'est aussi un de mes objectifs. Si aujourd'hui... Je m'engage à ce point à vouloir construire une marque. Je veux que cette marque soit aussi dans mes valeurs. Moi, j'ai été élevée par une maman qui me montrait les magazines dans les années 80-90 et qui me disait « Regarde, il n'y a rien pour nous. J'ai galéré pendant des années à essayer de trouver des produits pour mes cheveux de métis, donc frisés, pas frisés. » entre les deux, quoi. Donc, on ne sait jamais quoi faire avec. Tout ça, ça m'a marqué. Et pour moi, cette idée de dire toutes les beautés font partie de la beauté avec un grand B, c'est vraiment un objectif et c'est une valeur profonde que j'aimerais transmettre à travers cette marque. Et le maquillage, c'est pas futile. Le maquillage, c'est un plaisir. Le maquillage, ça fait partie d'une féminité depuis toujours. Même si aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes qui j'ai envie de dire qu'ils reviennent au maquillage parce qu'il y a eu dans l'histoire des époques où les hommes se maquillaient. Oui. Mais je compare souvent le maquillage avec la lingerie. La lingerie, il y a un plaisir d'un point de vue féminin de choisir sa lingerie. Et ça, c'est peu importe la taille, en fait,
oui,
quand on y pense. C'est vrai que ça a manqué à une époque pour des grandes tailles ou des petites tailles d'avoir de la jolie lingerie. Aujourd'hui, il y en a pour toutes les tailles et pour tous les goûts. Et pourtant, la lingerie, ce n'est pas ce qu'on voit en premier. On est habillé par-dessus. Donc, pourquoi on a ce plaisir-là? C'est que c'est vraiment quelque chose de très personnel et d'intime. Et je pense que le maquillage, c'est pareil. Cette envie de se dire, oui, OK, je pourrais ne pas me maquiller, mais en même temps, j'aime bien ce petit côté, j'ai un petit truc en plus, j'ai mon glow qui va bien, j'ai ma petite touche de ceci ou de cela. Je pense que c'est quelque chose de très intime et qui est très important dans la construction de l'amour propre aussi. Ouais. Ça fait partie des gestes quotidiens qui nous font nous aimer plus, mais tout en étant nous-mêmes.
Exactement, je suis totalement d'accord. Et je parlais avec une Canadienne aussi, qui, oui, elle a une marque de soins. Et c'est vrai qu'elle aussi, elle était vraiment dans cette démarche. Et c'est marrant parce qu'on voit qu'il y a des choses qu'on apprenait avant qui reviennent, comme s'approprier son corps, prendre soin de son corps, prendre le temps. Parce que moi, tu vois, ce que tu dis, bah, c'est ma maman qui, à l'époque, ma maman, alors, elle est très coquette, et tu vois, c'est elle qui, vraiment, tout le temps, bah, mettait son petit rouge à lèvres rouge. Elle, c'était rouge ou en rose, mais très foncé. Et je la voyais tout le temps se parfumer, tout ça. Et c'était ses moments à elle. C'était ses moments à elle. Et c'est vrai que Rose me disait aussi que ben, dans le massage, elle est d'origine africaine, et que le massage, pour elle, c'était quelque chose de totalement normal, qu'on apprenait, oui, aux petites filles. Et pour elle, c'était bizarre qu'aujourd'hui, des femmes ne se massent pas, parce qu'elle me disait, mais c'est pour moi, c'est pour mon corps, et ça me fait du bien. Et c'est vrai que ce sont des choses qui reviennent, et tant mieux, parce que ça nous fait du bien.
Ah oui, ben, c'est tout ce qui est bon pour le moral, et en même temps, ça rejoint la santé. La, oui, santé, ça passe à tous les niveaux, je pense.
C'est vrai. Il y a quelque chose que tu disais, je vais rebondir dessus, tu disais qu'à l'époque, c'était très compliqué de trouver des teintes de make-up pour nous. Aujourd'hui, en 2020, alors dans le maquillage dit traditionnel, donc je fais la différence avec le maquillage clean, oui, on en voit de plus en plus. Donc, c'est, oui, vrai que MAC a fait partie des pionniers à, oui, mettre en avant beaucoup de tons. Après, il y a eu le gros buzz de Fenty. Mais je remarque, en tout cas en Europe, aux États-Unis, je ne sais pas trop au Canada, mais aux États-Unis, dans les marques clean, il y a quand même beaucoup plus de choix de teintes. Mais en Europe, je trouve que c'est hyper restreint et qu'on, finalement, on fait un bond en arrière de plus de 10 ans, si ce n'est pas plus, dans le maquillage clean. Pourquoi ?
Bonne question. Franchement, bah de toute façon, sur toute cette partie qu'on appelle l'inclusivité, l'Europe est très en arrière, très arriérée. Pourquoi ? Bah, y a deux raisons. Déjà, je pense qu'aux États-Unis, la revendication, elle est plus forte. Attention par contre, parce que beaucoup de gens ont l'impression que ça fait des années que maintenant les rayons se sont complètement démultipliés et qu'on trouve plein de teintes de fond de teint. Fenty, c'est un lancement septembre 2017. Oui. Donc en gros, c'est 2018 année complète, 2019 année complète, et là on est sur la troisième année. Donc c'est une marque qui a 3 ans, il faut s'en souvenir. Donc effectivement, il y avait que MAC qui avait travaillé au début, bon, peut-être on dit Make Up For Ever, mais pour moi Make Up For Ever n'était pas encore totalement au point. C'est vraiment MAC qui a ouvert la voie. Pourquoi l'Europe ne suit pas? Pour plein de raisons. L'Europe ne suit pas déjà parce que les grandes maisons de cosmétiques ne sont pas mixées déjà dans leurs propres sièges sociaux, dans les équipes. Moi, je me souviens à l'époque chez Sephora, on parlait de... Je me souviens d'assister à une réunion où il devait y avoir 25 personnes autour de la table qui parlaient de comment faire pour être plus adapté dans notre offre et parler plus aux femmes à la peau plus foncée, parce qu'en plus ils ne savaient même pas exactement, mais bon, est-ce que juste il faut que notre offre et qu'on fasse un peu d'effort, mais il n'y avait aucune personne de couleur autour de la table. J'étais la seule qui pouvait avoir ne serait-ce qu'une légitimité, en guillemets, à parler. Donc ça, je pense que c'est une de nos graves erreurs. Donc, on a mis beaucoup plus de temps. Il y a encore beaucoup de tabous en Europe. On n'aime pas parler de on a peur que ça soit dans les du clivage. C'est très compliqué. On est vraiment encore engoncé. Donc il y a un vrai mur encore à faire péter et de faire traverser les choses. En plus, on est sur un marché où le maquillage était moins un segment important. Donc aux États-Unis et au UK, c'est quand même les deux plus gros marchés de maquillage. Les femmes se maquillent beaucoup plus en général. Donc ça a permis aussi aux marques de là-bas et même à des marques spécialisées pour les peaux plus foncées de se développer, parce que les femmes cherchaient, de toute façon, elles sont beaucoup plus sophistiquées dans leur maquillage. En Europe, surtout sur la France, entre autres, je crois, Italie, Espagne, c'est pas des pays très médicés. L'Allemagne, je connais pas beaucoup l'Allemagne, je pourrais en parler plus. Mais voilà, donc il y a encore cette problématique. Et après, c'est vrai que sur les marques clean et même les marques américaines qui dernièrement se sont un petit peu plus élargies, moi, quand j'étais avec Cocoa Swatches, avec Ofune Amaka, que tu connais peut-être, ouais. Qui est une influenceuse américaine. Ofune, je lui avais fait tester les produits et tout. Elle m'a dit, Aymara, il n'y a aucune marque jusqu'à présent. Dans toutes les marques qui ont justement un clean product, qui ont pu me proposer un produit adapté à ma carnation.
C'est dingue.
Donc, et ça, c'est il y a un an ou deux. Donc là, dernièrement, ils se sont un petit peu réveillés. Mais ça reste compliqué. Et après, j'avoue que y a beaucoup de difficultés à bien formuler pour pouvoir aller travailler tous les tons. Donc, quand on rentre sur des formulations encore plus restrictives, typiquement sur des gammes bio, là, ça devient vraiment pas facile de travailler pour les peaux foncées.
Quand toi, tu arrives avec ta marque, justement, inclusive, avec ce panel de tons, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que les concurrents disent?
Il y a deux choses. Il y a parfois des gens qui vont me dire « Ah ben oui, mais tu as une vingtaine de teintes de fond de teint, c'est pas assez pour être inclusif, déjà. »
Ah, c'est vrai?
Oui, oui. Parfois, on me dit ça. On me dit qu'il en faut au minimum 40. Alors là, ça me fait toujours marrer. Parce que pour avoir construit des gammes jusqu'à 60 teintes, hein, parce que j'ai même fait 60 teintes de fond de teint pour une marque, ça me fait rire parce que je leur dis c'est pas ça l'inclusivité. L'inclusivité, c'est de connaître les peaux et de connaître l'arc-en-ciel. Donc, à un moment donné, d'avoir 30 beiges parce que on avait toujours construit les marques comme ça et de se dire maintenant il faut en rajouter, donc on va rajouter 30 autres teintes pour pouvoir compléter, ça devient complètement fou. Donc je pense qu'il y a une équité à respecter pour pouvoir couvrir les spectres de la peau. Et ça, ça ne fait pas toujours plaisir aux marques traditionnelles parce qu'évidemment, elles ne veulent pas couper sur des teintes claires. Elles veulent étendre et avoir plus de teintes pour couvrir d'autres tons de peau, mais elles ne veulent surtout pas restreindre le nombre de teintes sur les teintes claires, même si elles pourraient totalement le faire. Donc, parfois, on me dit ça. Et après, qu'est-ce qu'on me dit? Ça interpelle, ça intéresse aussi. Ça intéresse. Par contre, ben, je reste encore une petite marque où il y a encore énormément d'étapes à franchir pour vraiment pouvoir entrer dans le retail des grands.
Mais t'es une petite marque, mais tu te développes quand même à l'international. Donc, c'est pas si petit que ça. Comment, dans quel état d'esprit, toi et ton équipe, vous êtes actuellement quand tu vois ton bébé grandir comme ça?
Eh bien, moi, je suis toujours assez pragmatique et exigeante. Pour moi, j'avance pas assez vite. Je dirais que c'est un peu toujours... Ouais, c'est un peu toujours ça. J'avance pas assez vite. Je voudrais qu'on soit capable d'accélérer encore plus. Développer à l'international, ça demande beaucoup d'argent. Donc, on est toujours... Là, je viens de compléter une levée de fonds. Je vais commencer un dossier pour demander des aides à la BPI cette année. Il y a pas mal de choses que je fais qui sont justement pour permettre d'aller plus vite et de développer. C'est toujours pareil. Pour pouvoir vraiment avoir la sensation qu'on est en train de passer une étape et d'être vraiment solide, il faut que les ventes soient au rendez-vous, qu'elles soient là tous les mois et qu'on soit sur quelque chose d'assez... qu'on ait l'impression qu'on n'est pas sur un terrain qui peut s'effondrer du jour au lendemain. Et ça, je dirais que c'est les premières années de la start-up, c'est ça. Il faut pouvoir durer dans le temps, il faut faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui parlent de la marque, qu'on soit plus connu, parce qu'on est encore... Il y a tellement de gens qui ne nous connaissent pas. Donc, il faut qu'on arrive à faire encore connaître la marque. Il faut qu'on lance des nouveaux produits pour avoir évidemment un catalogue plus étoffé, mais pour pouvoir compléter notre assortiment maquillage. Donc, voilà, on est encore vraiment, vraiment dans la construction et surtout dans une construction qui reste fragile. Donc, il faut qu'on arrive à la solidifier. Donc, c'est typiquement cette année et l'année 2021 vont être clés pour la marque pour solidifier tout ça.
Comment vous avez vécu la période Covid? Je pense que ça n'a pas été facile comme pour beaucoup, mais vous l'avez vécu comment?
Ben, nous, la période Covid, évidemment, les quelques points de vente dans lesquels on était, donc on est dans une... vingtaine de points de vente, ils ont été fermés du jour au lendemain. Donc ça a été évidemment un impact important sur le chiffre d'affaires. Sur la partie Internet, vente digitale, ça nous a un peu aussi dit, écoute, tu voulais refaire ton site Internet, vas-y, dépêche-toi. Donc là, justement, on a notre nouveau site Internet qui va être mis en ligne au courant septembre, mais c'est tout le travail qu'on a fait pendant le confinement. On s'est retrouvés, une toute petite équipe, j'avais encore une stagiaire, une alternante, une employée, donc à quatre, à travailler à distance, mais je dirais que ça a été une période qui a été... malgré tout, très chargé pour nous parce que même si on était confinés et qu'on travaillait à distance, on avait encore plein de choses sur nos to-do list qu'il fallait faire que les magasins soient ouverts ou fermés, ça ne changeait rien. Donc ça a été une période, je dirais, aussi de beaucoup de remises en question, puis j'en ai encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on est encore dans une période où on se rend compte que, à part les ventes digitales, on ne sait pas exactement ce qui va pouvoir se passer dans la prochaine année. Donc ça, pour nous, ça a un impact. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on ait une stratégie plus agressive sur le digital pour qu'on puisse émerger. Et aujourd'hui, émerger online, c'est très difficile. Et pas que pour les marques, pour les influenceuses, pour tout le monde. Donc, c'est de plus en plus difficile et il faut vraiment cravacher pour pouvoir être vu et qu'après, convaincre aussi. Parce que acheter un fond de teint sur Internet, c'est pas facile.
Exact. Je sais ce que c'est.
Ben oui, c'est
je sais ce que c'est. Je cumule les 3-4 fonds de teint par marque pour trouver ma teinte à chaque fois. C'est assez compliqué.
C'est ça. Donc, tout ça, on est là-dessus. Et en tout cas, ça nous a bien secoué sur la partie digitale. Après, ce que je dirais qui nous aide de la période COVID, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une vraie envie. On le sent, il y a une envie de choses plus saines pour le corps, pour l'esprit. On a parlé beaucoup de skincare pendant le confinement. Là, il y a quand même de plus en plus un intérêt pour du maquillage qui s'inscrit dans la voie du skincare et dans le côté sain pour la peau. Donc ça, je dirais que le confinement et la période COVID ont fait s'accélérer la tendance qui était déjà là avant.
Ouais, donc ça, c'est vraiment très bien. C'est vrai que moi, je parle, aujourd'hui, je ne parle que de produits clean sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Et c'est vrai que je réalise que les gens qui me suivaient, alors moi, ma démarche, on va dire éco-responsable, elle a démarré à un petit peu plus d'un an et demi. Donc, les gens qui me suivaient depuis, je suis sur les réseaux sociaux depuis, on va dire, 3 ans, ont vu mon évolution. Et c'est vrai que je remarque qu'ils s'intéressent, comme moi, à changer leur façon de faire, d'achat. Et il y a un écho positif quand je parle de biradiance, quand je parle de produits clean, de bonne composition. Il y a vraiment des retours où on me pose des questions, ou même des fois, même en DM, des gens qui viennent, qui me disent « Est-ce que tu connais cette marque ? Qu'est-ce que tu en penses ?» J'ai vu que c'était une marque clean, vegan, tout ça. Et je me dis que c'est bien, parce que comme tu le dis, il y en a de plus en plus. Il y a vraiment une prise de conscience qu'on peut mieux faire, qu'on peut mieux consommer. Et c'est bien. Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Exactement. Et là, nous, ce qu'on se dit aussi, c'est que faut peut-être qu'on en parle plus. On va essayer de le faire à la rentrée. Mais c'est vrai qu'on porte beaucoup le masque en ce moment et que c'est pas évident toujours d'avoir du maquillage qui est compatible avec le masque. Et du coup, notre fond de teint, il est super pour ça. Et nos poudres et highlights aussi vont être assez intéressants, mais on a un maquillage qui est non seulement moins lourd, mais qui est sans transfert. Une fois qu'on a appliqué son fond de teint à l'eau de concombre et qu'il a séché donc plus rapidement que la moyenne des fonds de teint,
clairement.
On a l'impression de rien avoir sur la peau. Donc évidemment, quand après il faut mettre un masque, c'est quand même plus agréable que quand on a un fond de teint ou quand même dès qu'on approche un tissu, il laisse des marques.
Et je viens d'entendre 2 petites choses, poudre, highlighter. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ce sont les produits qui vont bientôt arriver ?
Oui, et qu'on va t'envoyer d'ailleurs en avant-première. On est en train de faire des kits. Alors, il y a presque 2 ans maintenant, parce que c'est drôle, mais c'est souvent avec des rencontres, c'est vrai. Autant j'ai eu une rencontre et un coup de foudre avec cette formulatrice qui travaillait sans silicone et sur l'eau de concombre, autant j'ai rencontré des gens qui avaient travaillé sur des bactéries, donc un peu comme ce qu'on retrouve dans les yaourts, des probiotiques, et sur une forme d'encapsulation qui permettait à la bactérie vivante d'être endormie et en fait d'être réactivée avec de l'eau. Donc, en général, la bactérie telle qu'on la trouve dans le yaourt, elle dure un certain nombre de temps, puis après, elle meurt. C'est pour ça que le yaourt est au frigo et qu'après, bon, on le mange et qu'on a toutes les bonnes bactéries. Donc, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de regarder ça de plus près, surtout que ces gens-là, ce laboratoire, travaillait sur des produits qui étaient à base donc, de ces bactéries pour soigner le psoriasis, l'eczéma, l'acné. Donc vraiment pour permettre d'aller cloner sur la peau, parce qu'on sait aujourd'hui que le microbiote cutané, en fait, c'est l'ensemble des bactéries qui recouvrent la peau. C'est un petit peu comme ce qui se passe dans notre intestin. Quand on a les bonnes bactéries, ben, en général, on a une belle peau, et on est en train de se rendre compte que quand on n'a pas toujours les bonnes bactéries ou pas toutes dans les bonnes quantités, ben, ça peut être la cause de nos problèmes de peau. Et donc, j'ai trouvé très intéressant que nos poudres sur lesquelles on était en train de réfléchir, parce qu'on s'est dit, ben, évidemment, pour construire après le fond de teint, on a envie de faire des blushs, des poudres, des enluminures, ça pourrait peut-être être intéressant de leur amener une valeur ajoutée, parce que quand on se poudre le visage, en gros, on ne fait rien d'extraordinaire. Hein. Même quand on dit poudre minérale, ça ne veut rien dire. C'est juste qu'on a utilisé des matières qui sont minérales. Mais ça n'a pas vraiment d'impact sur le visage. Et c'est comme ça qu'on a travaillé avec le laboratoire sur une façon d'encapsuler et de mettre les poudres, mettre les probiotiques dans nos poudres. Et donc là, on va sortir... Donc, 17 références de 7 Anglo. Donc 7 Anglo, c'est quoi? C'est la poudre, la setting powder, donc en compact, et qui est accompagnée en duo de son parfait highlighter. Donc pour chacune des teintes de fond de teint, on a concocté la parfaite poudre setting plus le parfait matching highlighter. Et qui sont infusés de probiotiques. Et on a fait la même chose pour 4 blushs, parce qu'on s'est dit qu'on voulait aussi de la couleur. Donc, on a fait 4 couleurs de blushs très, très pêchus, donc un rose, orange, rouge et bordeaux. Et on les a accompagnés aussi d'un glow, super glow. Donc, et là aussi, on a intégré des encapsulations de probiotiques et prébiotiques dedans. Donc voilà, donc on arrive avec le premier maquillage microbiome friendly à la rentrée en septembre.
C'est trop bien, c'est trop bien.
Ouais. Et donc là, on peut s'amuser, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le glow tout seul, on peut utiliser la poudre en setting ou en mattifying toute seule, on peut les mélanger pour faire un all-over sur le visage. On peut choisir sa poudre qui correspond à sa teinte de fond de teint ou encore choisir quelques tons plus foncés pour faire un bronzer. Tout est possible et du coup, ça nous fait un très bel assortiment de 21 nouvelles références qui vont venir compléter le catalogue de nos 17 fonds de teint et de notre primer. Ah, c'est donc ça, c'est notre bébé qui est tout chaud et qui nous amène justement dans cette voie de dire... voilà, on est à 95% d'ingrédients naturels sur ces poudres et blushs et enlumineurs. C'est sans talc. On a remplacé le talc, on a travaillé sur d'autres bases, entre autres du mica et de l'arrowroot. Voilà, on s'est vraiment challengé pour donner une valeur ajoutée et c'est là où ben, cloner les bonnes bactéries sur la peau doivent pouvoir améliorer la santé de la peau.
Mais c'est génial parce que tu vois, ta marque me fait dire que rien n'est impossible. Et quand on entend des gens dire oui, mais c'est compliqué, on ne peut pas mettre tout le monde, on ne peut pas intégrer tout le monde ou on ne peut pas faire ça aussi bien et ça ne peut pas être en soin, tout ça, toi, tu nous dis si, si, on peut, il faut juste se donner les moyens, il faut réfléchir, il faut s'entourer des bonnes personnes, mais on peut intégrer tout le monde et on peut faire des choses de qualité. Et je trouve ça trop génial.
On peut et il faut pas s'arrêter là. Moi déjà, je suis déjà, de toute façon, on travaille déjà sur nos futurs produits, mais il faut se re-challenger, il faut toujours avancer, il faut jamais se Typiquement, sur la question des teintes, et c'est ce que je dis avec les blushs, on lance 4 blushs, ben, n'importe quel ton de peau va pouvoir trouver dans les 4 blushs que je lance quelque chose qui lui convient. Donc, ce n'est pas une question de nombre de teintes, c'est une question de vraiment intégrer le fait qu'on est, on est multiple. Il n'y a pas qu'un seul type de beauté ou qu'un seul type de look maquillage qu'on va rechercher. À partir du moment où on se challenge et qu'on veut vraiment correspondre à tout le monde, on peut le faire. Mais pour ça, il faut se challenger et il faut aller au bout, parce que là, je fais une petite parenthèse, mais j'ai déjà eu des marques avec qui j'ai travaillé qui étaient super contents de me montrer qu'ils avaient maquillé une jolie métisse avec leur gamme actuelle. Et quand ils me montraient le résultat maquillage, je leur disais, mais c'est pas beau, là. Comment c'est pas beau? Je dis, mais c'est pas parce que la couleur se voit sur la peau que c'est beau. J'ai dit, le rose que vous avez mis sur les lèvres, il n'est pas du tout adapté, c'est moche. Et puis sur les yeux, ben, je ne sais pas quelle couleur vous avez mis. Oui, on voit qu'elle a du fard à paupières, mais on ne sait pas si c'est gris, si c'est bleu, si c'est quoi. On sait pas. Et en fait, voilà, se challenger, ça veut dire aussi se mettre dans la peau de l'autre et de chercher. Si, et c'est ce que je leur disais, si vous ne savez pas ce qui est beau sur la peau noire, ben, suivez des influenceurs, regardez ce que certains maquilleurs qui travaillent beaucoup sur les stars américaines, regardez ce qu'ils font.
C'est ça, demandez aux personnes concernées, tout simplement.
Voilà, et n'ayez pas peur de chercher une couleur qui n'existe pas. Ouais. Quand j'étais chez Black Up, on a sorti le premier rouge à lèvres mat noir. Et quand j'ai dit on va faire un rouge à lèvres mat noir en 2012, mon boss m'a regardé, il m'a dit, mais t'es taré. J'ai dit, ben non. J'ai dit, mais pose-toi avec les copines africaines, elles vont t'expliquer qu'avec un crayon noir, elles font tout.
C'est vrai, c'est vrai.
mais ça. Et donc, on n'a pas nécessairement besoin d'en faire beaucoup, mais il faut vraiment s'intéresser à toutes les beautés.
Ouais, je crois que c'est ce qui manque finalement, c'est qu'on a des gens qui aiment certainement ce qu'ils font, mais peut-être pas la beauté de manière générale. Et c'est ce qui est dommage, parce que je trouve que dans chaque beauté, il y a tellement de choses intéressantes à prendre, à apprendre, que ça peut en faire une force quand on prend le temps, comme tu dis, ben, d'apprendre de chacun.
Exact. Et puis, ben, mixer les équipes, c'est important. Pour pouvoir s'ouvrir à tout ça.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Biradiance?
Eh bien, déjà, je dirais que la première chose qu'il faut me souhaiter, c'est qu'on puisse être de plus en plus connu par un plus grand nombre. Et dans l'immédiat, je pense que c'est de relever le défi du digital. C'est notre plus gros défi aujourd'hui parce que le retail, comme on le disait tout à l'heure, est assez fermé à cause de la crise COVID, et ça risque d'être le cas malgré tout pour le référencement de nouvelles marques. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup qui vont rentrer dans les magasins, vu qu'il n'y a pas beaucoup de magasins qui vont bien en ce moment. Donc, il faut qu'on arrive à relever le défi du digital. On est vendu maintenant, on a décidé d'aller sur Amazon, sur toute l'Europe. Donc il faut qu'on arrive à relever le défi. On refait notre site internet, on va être plus actifs sur les réseaux sociaux, et après sur que la vision à long terme, là, le sommet de l'Everest, que ce soit effectivement notre voie et notre destinée, qu'on arrive à s'imposer comme un pionnier et qu'on arrive à poursuivre notre innovation pour s'imposer comme la marque de la peau saine en maquillage.
Alors, c'est tout ce qu'on vous souhaite avec ma pause café. C'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite.
Merci beaucoup, Tia. Et merci de ton soutien. C'est vraiment énorme pour nous, en tout cas. Merci.
Bah, moi, je pense que quand on croit en quelque chose, si on peut lui donner même un tout petit peu de lumière à notre niveau, faut le faire. Et c'est vrai que ma pause café, ce podcast, c'est vraiment ça. C'est mettre en avant des gens qui font les choses différemment, mais qui le font avec des valeurs que je partage. Et je me dis que si ça peut interpeller même une personne, ce sera toujours une personne qui sera intégrée dans la boucle. Et j'aurai gagné mon pari de mettre en lumière cette personne ou cette société. Et voilà, c'est mon job.
Merci beaucoup.
J'ai une dernière question parce que ça fait déjà une heure qu'on est en train de papoter. Ça passe vite. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton expérience, de ce que tu veux, une chose que l'on doit retenir qui pour toi est importante, ce serait quoi ? Bonne question.
Oui, c'est une bonne question, mais je dirais, une fois on m'a dit, si tu veux lancer une marque et être porteuse d'une marque, il m'a dit, c'est encore pire que d'aller à la guerre. Il dit, aller à la guerre, c'est dur, il faut être motivé et il faut être prêt à se battre. Il dit, toi, si tu veux porter une marque, c'est une guerre sainte. Il faut que tu y ailles pour une vision, une raison qui sont encore plus fortes que juste d'aller te battre. Et donc, je pense que ce qui résume ça, qui est moi et qui est ce que je mets dans cette marque et qui est ce que je voudrais laisser, ou en tout cas à mon petit niveau faire avancer les choses, c'est cette recherche d'une beauté saine plus universelle. C'est cette envie vraiment de faire avancer la beauté pour que on puisse toutes se reconnaître et de ne pas avoir l'impression qu'on doit se changer pour être belle. Ma petite nièce qui a la peau très mate est rentrée de l'école et elle était encore toute petite et elle dit à ma sœur, « Maman, pourquoi les enfants me pointent du doigt et me disent que je suis noire ?» Et ça, je veux dire, les enfants voient la différence, mais que notre industrie de la beauté ne le voit plus, ou en tout cas, on trouve les moyens de ne plus le voir ou de ne plus le faire sentir comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est ancré profondément en moi.
Je te remercie vraiment pour ces très jolis mots et j'espère que ce message, ce dernier message, sera entendu du plus grand nombre.
Merci.
Je te dis merci et à très vite avec tes nouveautés que bien sûr je me ferai un plaisir de faire découvrir et à très bientôt.
Merci Tia. À bientôt.